Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Vassili Grossman, un écrivain de combat, c'est le titre de la biographie dont on va parler aujourd'hui. Ce livre retrace la vie et l'itinéraire intellectuel de l'auteur de Vie et Destin, tout en racontant l'horreur du stalinisme. Il raconte aussi comment un chimiste communiste favorable au régime soviétique, devenu correspondant de guerre, va devenir un journaliste reconnu de tous, habité par la violence, l'héroïsme et le tragique du quotidien des soldats, puis bouleversé par la découverte de ce que les nazis ont fait aux juifs d'Ukraine et par la visite du camp de Treblinka, et bientôt concerné de près par la politique antisémite du régime, il va devenir alors un auteur juif et anti-stalinien. Vassili Grossman mourra donc victime de la censure avant même de voir son chef-d'œuvre publié. Avec nous pour en parler, Myriam Anisimov, l'auteur de cette biographie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez déjà écrit d'autres biographies sur Primo Levi, sur Romain Gary. Pourquoi est-ce que vous avez voulu travailler sur Vassili Grossman ?
D'abord, ça m'intéressait de voir la trajectoire et la manière dont trois écrivains juifs importants, peut-être pas tous de la même importance, mais quand même très importants, avaient été affectés par l'extermination des Juifs, puisque tous les trois, d'une manière ou d'une autre, l'ont été. Et j'ai lu Vie et Destin, j'ai trouvé que c'était peut-être le chef-d'œuvre du XXe siècle, sans doute un des plus grands livres qui a été écrit, au moins dans la première partie du XXe siècle. Et ça m'a beaucoup intéressé de voir comment un juif complètement marxiste et convaincu du bien fondé de la révolution et de la dictature du prolétariat allait avoir le courage de se dresser tout seul en face de l'État soviétique en risquant quasiment sa vie. C'était quand même... Et puis surtout de voir comment c'est... Il était très semblable aux juifs du RSS puisqu'ils étaient dépossédés de leur culture. Comment... À travers la Shoah, d'une manière négative, mais à travers la Shoah, il s'était réinvesti dans ses racines.
Alors, vous avez travaillé 5 ans, je crois, sur ce livre. Quelles nouvelles archives avez-vous trouvées? Comment avez-vous décidé d'aller travailler sur place? Comment est-ce que vous avez envisagé ce travail?
Je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je n'ai pas d'idées préconçues. Je prends les choses comme elles viennent. J'ai vu que Grossman, ça je le savais, j'avais lu l'horrible livre noir, donc je savais qu'il avait travaillé avec les écrivains yiddish, donc je savais que leurs descendants vivaient en Israël et que les archives sur la Shoah se trouvent à Yad Vashem. Donc j'ai été d'une part interviewée les filles de Solomon Mirhoels, de l'acteur, du grand acteur yiddish, le fils de Bergelson, le fils de Peretz Markish, etc. Enfin, tous les descendants qui se sont établis en Israël, qui avaient des souvenirs très précis de cette époque de terreur, de la chasse aux cosmopolites, sans passeport, vagabond de l'humanité, sans patrie. Et donc, ça, c'était pour Israël. Maintenant, pour ce qui concernait... oui, je voulais aller aussi à Yad Vashem, non seulement pour avoir des archives sur Berditchev, la ville natale de Grossman, et on m'a donné des archives qui étaient pratiquement inconnues, notamment un tout petit fascicule qui traînait dans un tiroir tout froissé en ukrainien. Ils m'ont dit « Personne ne l'a jamais demandé, on vous le donne ». Et c'était le récit de l'extermination des 35 000 juifs de Berditchev par les Einsatzgruppen. Donc, et puis, il y a eu des gens très accueillants à Yad Vashem qui ont passé des journées à chercher le moindre indice et qui m'ont donné tout ce qu'ils avaient. Et puis, bien entendu, je voulais aller voir la ville natale de Grossman. Donc, je suis allée en Ukraine et j'ai trouvé effectivement à la préfecture de Berditchev, c'est-à-dire à Jytomyr, aux archives, moyennant finances et négociations âpres, le procès-verbal des interrogatoires de l'oncle de Grossman, David Cherensis, qui était un médecin éminent, un philanthrope, qui a fini sous les balles du NKVD en 1938. Donc il y a tous les interrogatoires, plus l'ordre de le fusiller. Sa personne, même les Russes, ne l'avaient pas. Voilà comment j'ai travaillé. J'ai été à Moscou voir l'appartement où sont conservés les livres et les affaires de Grossman. J'ai été à Baden-Baden voir son fils adoptif, etc. J'ai, en toute liberté, hein, j'ai essayé de ramasser le plus d'éléments possibles. Et puis, à part ça, après, j'ai lu une cinquantaine de bouquins.
Alors, peut-être on peut revenir un petit peu au début de la vie de Vassili Grossman, donc, qui est né en 1905 en Ukraine, donc dans une famille juive laïque assimilée, qui donc non yiddishisante, puisque vous l'expliquez. Hein.
Son grand-père et sa grand-mère, qu'il a, semble-t-il, vu à la maison, dans cette grande maison du docteur Cherensis, qui était très riche, il a entendu parler yiddish. Et j'ai trouvé à Yad Vashem un truc très rare, c'est... dans les interrogatoires, puisque Grossman a été le découvreur de Treblinka et de Majdanek, avec Simonov, Ehrenburg et Dolmatovski, eh bien, il interroge un survivant et il lui dit, en yiddish maladroit, mais il lui dit, parle yiddish, je comprends tout. J'ai trouvé la preuve que le fond de sa culture, même... il y avait quand même des strates yiddish. Et puis à part ça, bon, ben, ses parents, c'était des juifs riches. Donc comme il y avait un numerus clausus contre les juifs qui leur interdisait quasiment d'entrer à l'université, ses parents ont étudié. Alors son père en Suisse, il était ingénieur polytechnicien. Et sa mère en France, elle était professeure de français. Donc bien sûr, c'était des gens qui avaient une culture... très étendue, multinationale, polylinguiste, et qui ont été laïques, c'est-à-dire plutôt du côté du Bund que du côté des bolcheviks. Voilà à peu près le tableau de la famille.
Alors justement, vous évoquez, Myriam Anisimov, les parents de Vassili Grossman. Il était très proche de ses parents qui se sont séparés assez vite. Son père, il l'a retrouvé assez tard, finalement.
Non, il ne l'a pas retrouvé tard parce que c'est une histoire... Bon, malheureusement, Grossman est mort. Et le fils adoptif, eh ben, il ne connaît que l'histoire qui concerne sa propre mère, c'est-à-dire la deuxième épouse de Grossman. Mais... on ne sait pas très bien comment les parents de Grossman se sont rencontrés. Soit la légende dit que c'est à Turin. Apparemment, le père de Grossman était un coureur de jupons. La maman de Grossman avait une maladie osseuse. Et sans doute, elle a été déçue peut-être des infidélités de son mari, mais elle ne lui en a jamais voulu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'animosité entre... Au contraire, ils s'écrivaient toutes les semaines, les époux séparés. Et donc, Grossman était très attaché à son père et à sa mère. Alors, tout petit, il a été élevé dans la maison du docteur Cherensis à Berditchev avec sa mère. Mais dès qu'il est allé au lycée, quand il a commencé à fréquenter l'université, il est allé à Kiev, à l'université de mathématiques. Et là, il a habité avec son père. Donc, il n'y a jamais eu... De ce côté-là, il n'y a pas eu de choc affectif, de rupture et de conflit entre les parents.
Alors peut-être on peut évoquer les premiers jalons dans la vie de Vassili Grossman qui vont faire de lui presque un héros dans la population russe, dans la population soviétique, au moment où il devient un reporter de guerre pour l'Étoile Rouge, donc le quotidien de l'armée rouge. Ça va être voilà, son premier
parce que déjà il a été remarqué avec ses premiers écrits par Mikhail Bourgakov, par Isaac Babel, par Maxime Gorky. Il rentre de fait dans la nomenclatura des écrivains. Il n'y a pas d'autre lieu. De toute façon, c'est ou ça ou pas d'existence du tout. Donc tout de suite, il est adoubé par Gorky avec ses premiers écrits. Et c'est vrai que donc il devient tout de suite un écrivain officiel avec tout ce que ça implique comme privilège. Et ensuite, quand la guerre éclate, effectivement, il va se porter volontaire. Alors, on ne veut pas tout de suite de lui à l'armée parce qu'il n'a pas fait le service militaire à cause de problèmes de santé. Mais le rédacteur en chef de l'Étoile Rouge, David Ortenberg, a lu ses écrits et dit « c'est l'homme qu'il me faut ». Et il va le faire former sur le plan militaire en urgence. Et Grossman va prouver qu'il est très doué puisqu'il va devenir tireur d'élite en quelques semaines. Et aucun maniement d'armes lui est étranger. Il finira avec un haut grade... Et donc, il va faire toute la guerre sans jamais être blessé. Et il va devenir, avec Ehrenburg, les deux plus célèbres correspondants de guerre de l'armée soviétique.
Et donc, il va effectivement, rencontrer presque la matrice de ce qui sera le vie et
tout
destin.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, il part sur le front. Ce qui va le marquer le plus, c'est d'abord la première année de défaite et de retraite en catastrophe de l'armée soviétique et les millions de morts que ça implique. Et puis ensuite, quand la situation se retourne, c'est la bataille de Stalingrad. Il va passer 4 mois dans les tranchées avec les soldats. Et c'est surtout ça qui va faire de lui un correspondant mythique. C'est qu'il n'est pas seulement à l'état-major ou dans un hôtel ou pour les journalistes. Il veut vivre aux côtés des soldats et il est plus attaché même aux hommes de troupes qu'aux gradés. Donc, ces articles sont pétris de cette humanité qu'il a côtoyée, avec qui il a vécu. Et les soldats et leurs familles se reconnaissent dans ces reportages. Si bien, tant et si bien qu'un de ces reportages, Le peuple est immortel, est publié dans la Pravda, ce qui est une consécration absolue, puisque Staline détestait Grossman, il était antisémite et il détestait Grossman, mais parce que Grossman ne le citait jamais. Malgré cela, il est publié en première page de la Pravda.
Alors, il va aussi faire, pendant cette guerre, l'expérience à l'été 43, donc en Ukraine, il va finalement découvrir ce que les Einsatzgruppen ont fait là-bas, et du coup réaliser aussi le sort qui a été celui de sa mère, qu'il a essayé de retrouver tout au long de la guerre.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne se pardonnera jamais de ne pas avoir été chercher sa mère quand il était encore temps. Il y est pour rien. Sa femme, ça voulait. Vous savez, les conditions de vie à Moscou, dans les appartements communautaires, c'était pas triste. Hein. Dans une pièce de 15 mètres carrés, il pouvait y avoir 15 personnes. Donc, quand il a proposé de faire venir sa mère, sa femme s'est écriée surtout pas. Puis on peut ne pas vouloir vivre avec sa belle-mère. Il ne s'imaginait pas qu'elle allait être tuée et que cette catastrophe allait advenir. Mais il y avait quand même une fenêtre d'opportunité pendant laquelle il aurait pu prendre le train pour Kiev et aller la chercher. Et ça ne s'est pas fait. Et donc, il a tout de suite très vite compris, puisque quand l'armée soviétique pénétrait dans les villes dévastées, il n'y avait plus de juifs. Hein. Il a écrit un article célèbre qui s'appelle « Il n'y a plus de juifs en Ukraine ».
Tout un peuple a été sauvagement assassiné.
Voilà, donc
tout est silence.
Et puis petit à petit, il a appris même les détails, c'est-à-dire quel jour sa mère avait été fusillée par quelques rares survivants qui lui ont envoyé une lettre pour lui donner des détails sur les derniers jours de sa mère.
Alors, il va aussi découvrir le massacre de Babi Yar, hein, dont la postérité dit beaucoup sur la politique antisémite en URSS, sur la réécriture de l'histoire, puisqu'on a même tenté d'effacer physiquement, hein, le lieu du massacre de Babi Yar.
Ah oui, ça a été une histoire insensée. Enfin, ils ont... D'abord, on voulait pas dire que les 100 000 fusillés étaient juifs. Bien sûr, il y a eu 30 ou 40 000 non-juifs qui ont été aussi fusillés. Mais enfin... Ça a commencé par le massacre de tous les juifs de Kiev. Il n'y a eu même pas 5 survivants sur 50 000 personnes. Et donc, les soviétiques ont décidé d'effacer ce lieu pour que ça ne devienne pas un lieu de pèlerinage. Et de toute façon, c'est extraordinaire ce paradoxe. Les juifs portaient la mention juif sur leur passeport, mais le mot juif était quasiment interdit dans la vie soviétique. Donc, ils vont employer les grands moyens pour essayer de noyer ce ravin gigantesque qui fait plusieurs kilomètres de long et 50 mètres de profondeur. Seulement, ça va provoquer... Les digues vont se rompre. Enfin, ils vont essayer de l'inonder pour le faire disparaître et après combler cet immense ravin. Et les digues vont céder et ça va faire disparaître un quartier entier de Kiev en quelques instants. Les tramways, les autobus, les immeubles, tout va disparaître en quelques instants. Et ça sera interdit de survol. Même les avions n'auront pas le droit de survoler ce quartier de Kiev disparu.
Alors, il va aussi... en juillet 1944, entrer dans le camp de Treblinka, et là, il sera face à l'extermination des Juifs.
C'est lui qui a écrit ce texte grandiose qui va servir de charge au procès international de Nuremberg. C'est-à-dire que le texte de Grossman, l'enfer de Treblinka, va être redistribué aux magistrats, aux journalistes, à tous les gens qui assistent à ce procès. Et qui va servir de témoignage à charge, puisqu'il est le premier, avec son collègue Dolmatovski, à avoir pénétré dans le camp de Treblinka, déjà détruit par les Allemands, mais la veille, il était allé à Majdanek, qui n'est pas très loin, donc il avait vu et les chambres à gaz de Majdanek qui étaient encore là, et les crématoires qui étaient encore là, et les ossements qui sortaient de terre à Treblinka, les sacs de cheveux abandonnés, des objets. Et il a écrit ce texte absolument admirable sur Treblinka.
Alors finalement, ce qui est intéressant dans cette biographie, Marie Manissimov, c'est finalement comment la guerre, comment la Shoah, finalement, a changé complètement l'auteur qu'était Vassili Grossman.
Oui, avant, on pouvait dire que c'était un écrivain russe né d'origine juive, alors qu'il va devenir un écrivain juif de nationalité russe. C'est-à-dire la perspective change et il assume à ce moment-là sa judéité. Et ses textes, enfin sa façon d'écrire, va prendre une espèce de tournure quasiment biblique. Et il évoque, il dit même, quand il achève son grand œuvre, son chef-d'œuvre, Vieil Destin, il écrit à son meilleur ami, Semyon Lipkin, qui est un poète juif religieux, Est-ce que j'ai raison devant les hommes, mais surtout ai-je raison devant Dieu, avec une majuscule, alors qu'il était interdit en Union soviétique d'écrire Dieu avec une majuscule, on l'écrivait avec une minuscule. Et donc il dit ça, ai-je raison devant les hommes et devant Dieu. Donc c'est vraiment un changement de perspective total. Alors il n'a pas la culture religieuse, mais quelque chose du divin le traverse. Et d'ailleurs, sa philosophie se résume à deux mots, la simple bonté toute simple, la simple petite bonté toute simple et la liberté.
Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que cette biographie, finalement, nous fait traverser toute l'histoire de l'URSS et notamment nous fait toucher du doigt la politique antisémite de Staline, finalement.
Il a toujours été antisémite, mais pendant la guerre, il a eu besoin des Juifs. Et donc, comme on sait, il a envoyé une délégation du comité juif antifasciste aux États-Unis pour collecter de l'argent et faire de la propagande en faveur de l'Union soviétique en guerre. Et dès qu'ils sont rentrés victorieux avec beaucoup d'argent et non seulement ça, des transports de troupes, des blindés, enfin, dès qu'ils ont obtenu tout ce qu'on espérait d'eux, il les a tous fait arrêter. Ils ont été jugés pour sionisme, pour tout un tas de choses, accusés de vouloir comploter contre l'État. Et après d'horribles tortures, ils ont tous été fusillés, dont tous les écrivains yiddish, le 12 août 1952, dans les caves de la Loubianka. Seul Grossman et Ehrenburg, qui écrivaient en russe, je pense que ça les a sauvés, et qui étaient très célèbres comme correspondants de guerre, ont échappé à ça, alors qu'ils apparaissent dans la procédure des interrogatoires.
Oui, ce sont aussi tous les auteurs du Livre Noir, c'est-à-dire ceux...
Oui. Voilà. Alors, il y a une personne aussi qui va en réchapper, c'est Lina Stern, qui était une grande biologiste et qui faisait des recherches sur le vieillissement et la possibilité de conserver une partie de sa jeunesse. Alors, Staline, qui était malade, l'a envoyé en relégation, mais il n'a pas osé ni la faire torturer, ni la tuer, parce qu'il espérait avoir besoin d'elle.
Oui, et il faut peut-être dire effectivement que ce Livre Noir a été une œuvre très importante à laquelle a participé Vassili Grossman et qui tentait de raconter aussi comment finalement la population russe elle-même, soviétique elle-même, avait participé au massacre en
Ukraine. C'est pas tellement les Russes, c'est les Ukrainiens.
Les Ukrainiens, oui.
Les Ukrainiens, les Lettons, les Lituaniens, les Estoniens. Les Russes, on ne peut pas dire ça, parce qu'à Kiev, c'était donc les Ukrainiens. D'ailleurs, ils étaient des gardiens dans les camps, tortionnaires. Et ça, c'était interdit de le dire. Hein, c'était toute la sphère d'influence soviétique. Et c'est une partie du Livre Noir. De toute façon, le Livre Noir ne paraîtra pas. Il est paru très récemment en Russie. Hein, il a fallu attendre bien après la perestroïka. Grossman va sauver in extremis un jeu d'épreuves qu'il va remettre avant de mourir à son dernier amour. Et elle-même va le remettre à Benjamin Caverine, qui va le remettre à la fille d'Ehrenburg, laquelle va réussir à confier ses feuilles à un diplomate français qui ne veut pas se faire connaître et qui a eu le courage d'amener ça secrètement en Israël. C'est comme ça qu'en 1980, la première édition du Livre Noir, incomplète, mais va paraître en yiddish et en hébreu.
Oui, le livre noir, donc, qui dénonçait les crimes nazis.
Tandis que la partie qui concerne la collaboration des peuples est sortie récemment sous le titre le livre noir inconnu, c'est-à-dire ces 300 pages sur la collaboration des populations à l'extermination des Juifs.
Alors donc, Vassili Grossman va se consacrer à l'écriture de Vie et Destin. En 1953, finalement, la mort de Staline le sauve aussi, d'une certaine manière, de persécution qu'il aurait pu...
C'est pire que ça, parce que déjà, la première partie de son livre, il raconte deux fois la même chose dans deux livres, hein, qui sont le miroir l'un de l'autre, avec un point de vue radicalement opposé. Le premier volume s'appelle « Pour une juste cause ». Il a eu beaucoup de mal à le faire publier. On lui a demandé moult corrections, notamment de supprimer les personnages juifs, ce qu'il a refusé. Il a été très persécuté une fois que le livre est sorti, après un hommage des hurrahs de victoire. Quand le livre est sorti, les gens s'arrachaient littéralement le livre. Et Staline y a mis bon ordre, a fait écrire un article dans la Pravda destructeur. Donc Grossman était quasiment au bord de l'arrestation. Et pendant qu'il achevait, il écrivait presque simultanément les deux livres. Il a fait la deuxième version, donc, qui s'appellera « Vie et destin », et qui raconte également la bataille de Stalingrad avec les mêmes personnages, mais en présentant les crimes du stalinisme qu'il met sur le même plan, pas sur le même plan, mais en effet de miroir avec les crimes des nazis. Et donc là, il va devenir effectivement, après avoir écrit ce manuscrit qui va lui être confisqué par les agents du NKVD.
Il y a cette scène incroyable que vous racontez dans votre
biographie. Oui, parce que ça prouve aussi à quelle l'influence des livres en Russie. On n'imagine pas ça en France. Des miliciens se sont présentés à son domicile et ils ont dit « on vient arrêter un livre ». Comme on arrête une personne, on vient arrêter un livre. Et donc, ce livre ne lui sera pas restitué. Il va en mourir littéralement, mais il a réussi à sauver deux copies. Et c'est ce que nous lisons aujourd'hui. L'histoire aussi du sauvetage de ces deux copies est extraordinaire.
Vous pouvez peut-être nous raconter un peu.
Et je vais essayer d'être très rapide. Donc, il savait que son livre était impubliable. Une fois qu'il a été confisqué, il a écrit à Khrouchtchev. Khrouchtchev l'a fait recevoir par Souslov, qui était en somme le ministre de l'Intérieur, qui lui a dit que son livre était une bombe atomique contre l'Union soviétique, que jamais on lui rendrait, mais on avait décidé de le conserver en vie, enfin apparemment. Et donc, il meurt d'un cancer généralisé, et il a réussi à sauver deux exemplaires. Un qu'il a donné à son ami Semyon Lipkin, le même dont nous parlions tout à l'heure, et l'autre à Loboda, qui était un collègue de la fac, qui n'avait rien à voir avec le milieu littéraire, et qui vivait dans une espèce de cabane en bois à 200 km de Moscou. Et donc, c'est le manuscrit avec le bon à tirer de Grossman, avec les ultimes corrections, la dédicace à sa mère. Et ce manuscrit va passer 20 ans dans un sac de pommes de terre, entre le plancher et la terre, dans cette cabane de Malo Yaroslavetsk. Et donc, c'est après la chute, la mort de Staline, Lipkin se dit qu'il doit faire quelque chose pour son ami. Et donc, il cherche dans Moscou quelqu'un qui fait des microfilms. Alors, ça va être toute une histoire. Il va être microfilmé plusieurs fois, pas très bien. Après, il faut trouver quelqu'un pour passer les microfilms à l'Occident. Alors là, il y a un écrivain dissident qui s'appelle Voïnovitch, qui est juif, qui lui a plein de contacts et qui va réussir à confier les microfilms à une autrichienne qui est une slaviste distinguée, Anne-Marie Ziegler, qui va les confier à l'attaché culturel allemand, Mitte, qui lui n'est pas fouillé et qui amène ça à Vienne. Et de là, il téléphone à Effi Metkind, qui avait été expulsée d'Union soviétique pour avoir soutenu Joseph Brodsky. Et donc, il lui dit « Monsieur Etkind, j'ai un petit cadeau pour vous ». Et Etkind raconte qu'on lui a donné une petite boîte en carton qui ressemble à une boîte de chocolat. Il a ouvert, il a trouvé les microfilms, il les a mis devant une lampe et il a vu Vassili Grossman, Vie et Destin. Il était stupéfait. Enfin, c'était un événement immense. Et de là, il a appelé Vladimir Dmitrievitch et ils ont décidé dans le plus grand secret, il ne fallait pas que le manuscrit. Et c'est d'abord sorti en russe en 1980 à à Lausanne, en Suisse, et puis en 83 en France. Et ça a été un triomphe mondial, on peut dire.
Merci encore. Je rappelle, Myriam Anisimov, que vous êtes l'auteur donc, de la biographie consacrée à Vassili Grossman, qui est parue donc, aux éditions du Seuil. Merci. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission. www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.